Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite après VibraSOS tous les samedis entre 12h et 13h. C'est Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct, en différé. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts, bien sûr, et puis l'actualité de Graphite sur le site Internet, mais également sur la page Facebook. Nous sommes le 30 octobre, il y a certaines choses assez intéressantes et assez récentes, ça date du 20e siècle. Par exemple, le 30 octobre 1960, Michael Woodruff, il effectue la première transplantation rénale qui est réussie. C'est en 1960 qu'on fait une transplantation de rein, c'était à Édimbourg en Écosse où ça s'est passé. L'année d'après, en 61, c'est l'explosion au-dessus de l'archipel arctique russe de la Nouvelle-Zemblée, eh bien l'explosion de la plus puissante bombe jamais mise au point, ce qu'on appelait la Tsar Bomba. Ça fait presque rêver, on dirait le nom d'un cocktail. Et en fait non, c'était la plus puissante bombe qui n'a jamais été mise au point et qui a donc explosé en 1961. En fait, en 85, c'est la navette spatiale Challenger qui décolle pour sa 9e mission le 30 octobre 1985. C'était la dernière mission qui a réussi parce que l'autre Challenger, on s'en souvient, en 86, avait explosé en vol. Naissance le 30 octobre 1895 de Gerhard Jönnes d'Omagh. C'est un bactériologiste allemand, donc il étudie les bactéries. Et en fait, il est l'auteur de la découverte de ce qu'on appelle le Prontosil. C'est le premier médicament antibactérien qui va être commercialement exploitable. Donc c'est assez intéressant. Il reçoit en 1939 le prix Nobel de médecine pour la découverte des effets antibactériens de ce fameux Prontosil, dont je vous passe le nom scientifique, c'est compliqué. Donc il reçoit ce prix Nobel en 1939. Mais le régime nazi l'oblige à refuser le prix et il est incarcéré pendant une semaine par la Gestapo parce que après qu'on ait remis un prix Nobel à Karl von Ostiekist en 1935, c'était un opposant au régime, et bien le gouvernement nazi, qui était un peu agacé, avait promulgué une loi interdisant à tout ressortissant allemand de recevoir et d'accepter ce prix. Et donc en 1939, Gerhard d'Omagh reçoit, enfin il est, en tout cas il est récompensé par ce prix Nobel de médecine, et il a été un petit peu bloqué dans cette récompense à cause du régime nazi. Ces médicaments-là, dont le Prontosil, ces médicaments antibactériens, c'est une véritable arme révolutionnaire, hein, on est dans les années 30. Ils se remplaçaient plus tard par la pénicilline, parce qu'elle sera plus efficace, elle sera plus tolérée aussi, car les médicaments comme le Prontosil, qui sont des médicaments sulfamidés, donc c'est une famille assez particulière d'antibactériens, pouvait provoquer la formation de calculs rénaux ou également altérer un petit peu la moelle osseuse. Et donc du coup, par la suite, on a plutôt commercialiser la pénicilline qui était plus efficace contre les bactéries et mieux tolérée par le corps humain. Voilà, donc c'était la naissance le 30 octobre 1895 de Gerhard d'Omagh. Décès en 1823 d'Edmund Cardwick, pasteur et mécanicien anglais. J'aime bien cette association, c'est assez intéressant. Il est à la fois pasteur, mais également mécanicien. Il est néanmoins l'inventeur du métier à tisser mécanique. Edmund Cartwright, qui est donc décédé en Angleterre le 30 octobre 1823. Voilà, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu le passé, de contextualiser, d'apporter un petit peu d'histoire également dans les découvertes scientifiques. On a parlé du prix Nobel de Gerhard d'Omagh, pardon. Et donc, on va aussi, dans cette émission, parler des prix Nobel qui ont été annoncés en début du mois d'octobre. Alors, on n'a pas eu le temps, pendant ce mois d'octobre qui est passé à une vitesse affolante, de pouvoir regarder en détail les prix Nobel. Au niveau des prix Nobel scientifiques, il y en a trois qui nous intéressent, la médecine, la chimie. On va commencer peut-être avec le plus compliqué, c'est le prix Nobel, enfin plus compliqué à expliquer à la radio, c'est le prix Nobel de physique qui récompense les maîtres de la physique complexe. Alors, déjà, pour beaucoup d'entre nous, la physique est déjà complexe, mais les physiciens, eux, ont créé une physique complexe. Imaginez, on se dit, c'est encore beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Notamment, il y avait le philosophe qui était également un petit peu géologue, c'est-à-dire qu'il étudiait la Terre. Il était français, c'était Teilhard de Chardin, qui avait beaucoup discuté avec un géochimiste russe. Et ça se passe au début du XXe siècle. Et il considérait que il y avait trois infinis dans l'univers. Il y avait l'infiniment grand, ok, on arrive à comprendre un petit peu ce concept d'infiniment grand dans l'univers. Il y avait l'infiniment petit aussi, et là aussi on comprend un petit peu, on voit très bien notamment au XXe siècle les avancées qu'il y a eu pour découvrir de plus en plus l'infiniment petit, et on considère qu'on n'est pas encore au bout du chemin et que l'infiniment petit va pouvoir également continuer à être exploré. Et puis, il y avait une troisième zone, un troisième concept, on va dire, qui s'appelle l'infiniment complexe. C'est une physique qui est en elle-même véritablement complète, hein, qui se définit en elle-même comme étant cette physique complexe. Et du coup, l'idée, c'est un petit peu d'étudier ces trois univers, entre guillemets, l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment complexe. Et donc, tout le monde discutait de ça, enfin tout le monde, les grands physiciens, bien sûr. Et pour le français Teilhard de Chardin, l'infiniment complexe était le domaine de la philosophie naturelle. C'est ce qu'on désignait encore il y a peu les sciences de la nature. En fait, on essayait de comprendre des systèmes comme la biosphère, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez général au niveau de la Terre, les cellules vivantes, et puis il y avait aussi des concepts un petit peu plus abstraits, entre guillemets, où la physique complexe pouvait concerner également la conscience. Alors effectivement, on est sur des concepts beaucoup plus difficiles à appréhender, et cette physique de la complexité, elle est toujours en plein développement aujourd'hui. Elle bénéficie bien sûr un petit peu de la puissance des superordinateurs, elle bénéficie aussi des percées spectaculaires de l'intelligence artificielle, et donc ces nouveaux outils vont permettre quelque part de pouvoir appréhender un petit peu mieux cet infiniment complexe. Bref, avec cette introduction pas facile à expliquer à la radio, je m'en excuse, j'espère que vous avez réussi à suivre, l'Académie royale des sciences de Suède a donc fait savoir début octobre qu'elle avait justement décidé de décerner le prix Nobel de physique excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, le prix Nobel de physique, justement, à certains des explorateurs de cet infiniment complexe. Selon l'Académie royale des sciences de Suède, ces auteurs ont pu apporter des contributions révolutionnaires à notre compréhension des systèmes physiques complexes. Il y a eu comme récompensé, en plus avec des noms compliqués, décidément c'est pas simple, Tsukuro Namabe, qui est membre de l'université de Princeton aux États-Unis. Il y a eu Klaus Hasselmann de l'Institut Max Planck de météorologie à Hambourg en Allemagne. Ah, météorologie, ça nous dit quelque chose. Et il y a également donc ces deux lauréats qui ont toujours été récompensés selon l'Académie de médecine, l'Académie royale des sciences, pour la modélisation physique du climat de la Terre, donc voilà le concept de météorologie arrive ici, la quantification de la variabilité et la prévision fiable du réchauffement climatique. En clair, le prix Nobel de médecine récompense les maîtres de la physique complexe du réchauffement climatique, c'est-à-dire essayer d'étudier le système de la Terre dans sa globalité avec l'ensemble des écosystèmes et justement les études qui ont été menées dans cette physique complexe ont donc été récompensées par ce prix Nobel de médecine, de physique. Je vais y arriver, décidément. Les deux scientifiques ont été récompensés. De l'autre côté, il y a une autre moitié du prix Nobel de physique qui a été attribué cette année à Giorgio Parisi. C'est un Italien. Il est notamment à l'université de Rome. Et lui a travaillé et a été récompensé pour la découverte des interactions entre l'état désordonné et les fluctuations dans les systèmes physiques de l'échelle atomique à l'échelle planétaire. Bref, on est toujours dans l'idée de bien comprendre un petit peu le concept général de du réchauffement climatique qui concerne l'ensemble de la Terre. Et donc, du coup, on est dans cette notion de physique complexe, pas facile à appréhender, bien sûr, et qui ont donc été récompensés cette année par ce prix Nobel de physique. Donc, voilà, essayez, s'il y a une chose à retenir, c'est que, du coup, le prix Nobel de physique récompense un domaine physique assez spécifique qu'on appelle la physique complexe. Et en l'occurrence, ici, les applications étaient de comprendre un petit peu mieux le phénomène du réchauffement climatique au niveau de l'échelle planétaire avec l'ensemble des interactions qu'il peut y avoir. Voilà. Je ne vais pas en dire plus à ce sujet parce que c'est assez difficile à appréhender, à expliquer à la radio. Mais en tout cas, comme tous les ans, on parle dans cette émission Biotine des prix Nobel et c'est tout à fait normal. Eh bien, il me semblait important d'aborder, bien sûr, le prix Nobel de physique récompensé cette année. Chimie, médecine, ce sera un petit peu plus facile à comprendre et ça sera juste après ce titre que nous allons écouter, si je ne fais pas de bêtises, parce que je rappelle que depuis début septembre, on a un nouveau studio et je n'ai pas encore totalement la main sur ça. Allez, 7 et match sur l'antenne de Graphite, à tout de suite.
Léger vent de l'est, canicule, piscine, altitude. Le chill est un genre de sieste. Je connais pas, je te parle pas de thèse. J'aurais peur de me perdre. Je rappe le soleil, je suis focus, ne change pas de terme. Pour être peinard, j'éteins le téléphone. Peu de taf, pas d'oseille. Pour clip, bébé, on squat chez les potes. Je vais danser ta meuf, c'est pour ça que t'es vénère. C'était match, un bap, tout de tiers. Blague et déterre, toujours la même. Devant le barbecue, tout le monde s'agite. Silence, on se lèche les babines. Quand on mange, on s'applique. Rassasié, confiné, tous au tapis. Chaise longue, digestion, sous le soleil, tout le monde abdique. Tranquille, derrière mes rébans, je mate. Le boule des copines, j'en profite tant que personne ne me capte. Je fais des siestes, n'écoute que des sons de barge. Ici le sud, on parle fort, mais nous aimons le calme.
Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Juste un bout de plage, un besoin de s'exiler. Laissez-nous au calme. On va pas la laisser filer.
Hey yo, j'suis calé dans des lolos. J'fais que me gaver d'air pur. J'ai pas retrouvé mon mojo. Vu que je l'ai jamais perdu, négro et je chill. La flemme au bout du fil. En train de converser et de vanner sur le boule d'une fille. J'ai le goût du fil. Je smoke et passe tout mon temps à mater des as. Négro, c'est la life des CDMADCH. Et c'est dans cet état que je respire un peu ivre de vivre. Je livre des textes. Ouais, j'aime lâcher des faces. Tu nous connais. C'est cool mais honnêtement, si tu chilles avec nous, faut pas que t'aies peur de zoner. Je disparais petit à petit comme un glaçon dans un whisky sec. Mon esprit apaisé par l'odeur de la whisky sec. Je ne me lève hop, ne réponds pas hôtel. Nourriture et boisson comprises comme quand je pionce à l'hôtel. Une taille de soda fraîche, la bois au goulot, j'en quille. C'est comme ça que je transforme mes heures de boulot en chill.
Chill, chill, chill.
Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Juste un bout de plat. J'ai besoin de s'exiler. Laissez-nous au calme. Laissez-nous chiller. Pour une fois qu'on a l'occasion, on va pas la laisser filer. Filer, filer.
J'suis calé sur mon trône, allongé sur mon transat. J'prends une pause, non, c'est tout mon plan de quand va. Je chill au bord de la piscine. Dis-moi si j'rêve, j'ai l'image magnifique d'une petite île et de ses sirènes. Pas de coups de blues. Que des coups de soleil, moment parfait, je n'ai même pas à ce que mon pouce se lève. La flemme a pris place, elle compte squatter tout le semestre. Je pisse, les gens se disent, il est cool ce mec. Flâner c'est de l'art, là je tiens le bon filon. Faut que je pédave, que je boive un vœu d'ilon. Est-ce exact, le chill rend la vie longue, je suis un fêtard. Je m'égare, j'ai des visions, elles s'échappent. La fumée de mes lèvres, elle est s'échappe. Douce et si sévère, mais quel spectacle. J'ai perdu la notion du temps, coincé entre rêves. Des réalités, je suis dans l'espace, 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 l'espace. Je suis dans l'espace, 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 l'espace. Je suis dans l'espace.
Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Juste un bout de plage, un besoin de s'exiler. Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Pour une fois qu'on a l'occasion, on va pas la laisser filer.
Sunset avec cette E-Match sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et donc, on parlait des prix Nobel qui ont été attribués au début du mois d'octobre. Donc, le prix Nobel de physique, ça y est, c'est passé. On est tranquille, on est soulagé, on en a parlé. Là, on va parler du prix Nobel de chimie, qui a été décerné à Benjamin List, qui est un Allemand, et à David Macmillan, un Américain, qui ont été récompensés tous les deux pour le développement de l'organocatalyse asymétrique. Alors ça, c'est pareil, l'organocatalyse asymétrique, c'est quand même un nom assez compliqué pour un outil qui est totalement génial parce qu'il permet en fait de fabriquer des molécules. Parce que fabriquer des molécules, c'est pas simple. Pourtant, il y a beaucoup de secteurs de l'industrie qui dépendent justement de nos capacités à pourvoir parvenir à fabriquer des cellules. Et les chercheurs ont pris l'habitude de compter pour cela sur des catalyseurs qui vont un petit peu favoriser des réactions, notamment des réactions chimiques. C'est pour ça qu'on est dans le prix Nobel de chimie. Et parmi les catalyseurs les plus connus, il y a ce qu'on appelle les enzymes, il y a aussi ce qu'on appelle les métaux. Et c'est ce qui vaut donc aujourd'hui à ces deux chercheurs, Benjamin List et David Macmillan, cette récompense suprême qui est le prix Nobel de chimie 2021, parce qu'ils ont réussi, eux, à développer un troisième type de catalyse. C'est ce qu'on appelle donc l'organocatalyse asymétrique. En fait, l'idée, c'est de s'appuyer sur des petites molécules organiques, qui est à la fois un concept assez simple et assez ingénieux, parce que ces catalyseurs organiques faits d'atomes de carbone, d'oxygène, d'azote, de soufre. Et bon, donc ce sont quand même des molécules, des atomes assez intéressants parce que c'est quand même la base de l'essentiel des molécules qu'on souhaite produire. Ce dispositif, il est également respectueux de l'environnement et c'est tant mieux. Et puis aussi, et ça c'est quand même pas des moindres, c'est aussi un dispositif bon marché. Alors n'en jetez plus, c'est génial. Ce procédé s'est développé très rapidement depuis les débuts des années 2000 et grâce à son côté asymétrique, je vous parlais d'organocatalyse asymétrique, eh bien c'est une spécificité qui est assez recherchée par l'industrie pharmaceutique et les réactions de construction de ces fameuses molécules, elles produisent en général deux molécules qui sont l'une miroir de l'autre. Donc elles sont symétriques et l'industrie elle a tendance à ne s'intéresser qu'à l'une des deux. Et en fait, si on arrive à faire des molécules asymétriques, c'est-à-dire que ce sont près des molécules miroirs, on est donc dans l'idée de pouvoir en produire plus ou en tout cas de produire des molécules plus intéressantes à partir d'une seule réaction. Et donc du coup, derrière, il y a bien sûr des questions purement financières qui existent et cette technologie assez intéressante et donc assez novatrice permet justement de résoudre ces problématiques d'argent. Alors finalement, si c'est respectueux de l'environnement, si ça coûte pas cher, relativement bien sûr, eh bien pourquoi s'en priver ? Et c'est pour cela que ces deux chercheurs ont été récompensés par le prix Nobel de chimie. C'était en début du mois d'octobre. Et puis on termine avec le prix Nobel de médecine, cette fois-ci, qui a donc été proclamé début du mois d'octobre. Et donc, on est avec deux personnes, je vais y arriver, excusez-moi, c'est David Julius et Ardem Patapoutian qui remportent donc le prix Nobel de médecine pour leur découverte des récepteurs de la température et du toucher. Vous avez peut-être vu ça dans les médias, ils en ont parlé un petit peu. Les sensations de chaleur ou de froid sur la peau ou également toute sensation que l'on a au niveau de la peau par rapport à la température, tout ça est transmis jusqu'à notre cerveau par des récepteurs qui sont situés sur les neurones. Et ces cellules, elles vont convertir un signal de chaleur ou un signal de pression, quand c'est le cas du toucher, en un signal électrique qui va pouvoir être interprété par le cerveau. Ça, c'est le principe un petit peu du système nerveux, c'est-à-dire qu'on va capter quelque chose, c'est chaud, c'est froid, on appuie sur quelque chose, donc il y a une sensation de toucher, et le cerveau va l'interpréter parce que lui, le cerveau, va recevoir un message électrique. Et donc, David Julius a travaillé sur le récepteur de la capsaïcine, c'est une molécule qui est responsable de la saveur épicée du piment, et cette capsaïcine, elle se fixe, je vais y arriver, sur un récepteur qui est présent dans les neurones et qui va transmettre l'information au cerveau. Donc lui, il a travaillé sur ça. Donc effectivement, cette sensation de saveur épicée du piment, c'est la capsaïcine qui est utilisée. Pour information, la capsaïcine, elle est aussi utilisée des fois dans certains produits cosmétiques et notamment sur ces fameux gloss repulpants. L'idée, c'est de provoquer un petit peu une réaction comme si on vous avait un petit peu déposer du piment sur les lèvres, et c'est pour ça qu'une réaction un peu rouge qui donne l'impression d'avoir des lèvres repulpées. Non, c'est tout simplement une réaction qui a été faite à partir de la saveur épicée et donc à partir de cette molécule, la capsaïcine. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est David Julius qui a travaillé dessus. Ardem Patapoutian, lui, il a découvert un récepteur qui s'active sous l'action d'une pression mécanique, donc on est bien cette fois dans la notion de toucher, et qui va donc donner une information au cerveau que le cerveau va interpréter en disant « Tiens, le corps est en train de toucher quelque chose ou alors il est en mouvement. » Enfin bref, il y a quelque chose qui se passe et le cerveau va pouvoir l'interpréter. Bref, ce qui est intéressant dans ce prix Nobel de médecine, c'est que finalement, la proclamation des résultats est totalement en contre-courant de ce qui se passe depuis plus d'un an et demi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches importantes qui ont été menées pour lutter justement contre la Covid-19, notamment ces fameux vaccins à ARN messager. Et bien en fait, le comité du prix Nobel a choisi de récompenser une découverte certes importante en médecine, bien sûr, mais alors qui n'a pas de lien avec la pandémie. Ça a été un petit peu discuté également, ça a fait parler, parce que on s'est dit, tiens, finalement, chacun peut avoir son avis sur le sujet, mais du coup, c'est un petit peu à contre-courant d'un emballement médiatique depuis un an et demi, plus d'un an et demi d'ailleurs, autour de ce Covid-19. Eh bien, là, le prix Nobel de médecine récompense David Julius et Ardem Patapoutian, je vais y arriver, parce qu'ils ont, eux, découvert les récepteurs de la température et du toucher. Et bien finalement, comme quoi on pouvait avoir des pronostics qui finalement n'ont pas été ceux qu'on avait prévus au départ. On continue à feuilleter l'actualité scientifique dans cette émission. Et puis on écoute bien sûr un petit peu de musique.
On s'inquiète, on s'approche et c'est pourtant banal. Les mémoires dans la poche, on oublie les étoiles. Dans sa tête, on s'accroche, on s'encastre bancal. C'est le même son de cloche, on adore ce qui est normal. Les mirages zambiers, on se rêve exotique. Militant pour la paix, on adore toute l'Afrique. Le tiers-monde au rabais, on connaît ses classiques. En un coup de balai, la conscience est logique. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnons bien les fenêtres, empoigne tous tes instants. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnons bien les fenêtres, empoigne tous tes instants. On se blesse, mais c'est juste pour la frime. On surveille ses fesses, le cœur est en vitrine. On maquille les faiblesses, on n'en montre qu'un signe. Fusée de détresse, c'est pour les magazines. Le train de vie, c'est sacré, on tue des gens pour ça. On s'est bien enfermé à traiter notre épas. En attendant le temps, je chante et je m'enlace. Laisse souffler le vent, les trépassés trépassent. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnons bien les fenêtres, empoigne tous tes instants. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnons bien les fenêtres, empoigne tous tes instants. C'est les ans pour le goût du regret. Qui va perdre son temps cherche à trop le gagner. On s'invente des drames quand le printemps nous quitte. Si le début se fane, on a peur de la suite. Si les enfants qui marchent ont déjà pris la pente, si les âges nous tâchent que les ans nous hantent, c'est qu'on met le regard sur les nombrils en trop. Alors à te recevoir, on s'aveugle bientôt. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnons bien les fenêtres, empoigne tous tes instants. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnons bien les fenêtres, empoigne tous tes instants.
Empoigne, c'était Coup de Marron sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine, pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde au niveau de la recherche scientifique et technique. On parle un petit peu de tous les sujets. Et l'actualité parle de science. Il n'y a pas que le Covid, il y a également l'énergie. Il y a déjà longtemps que je vous dis que l'énergie va être aussi une thématique importante des futures années qui nous attendent, parce qu'il va falloir trouver des solutions. Faut pas se leurrer, le monde a besoin d'électrique et donc a besoin d'électricité. Il va falloir en produire parce qu'on en consomme de plus en plus. Et ça devient un vrai sujet car les énergies renouvelables, pour l'instant, n'arrivent pas à produire autant d'électricité qu'on le souhaiterait. Les énergies fossiles polluent énormément, on le sait. Et la question du nucléaire, c'est une question qui revient un petit peu sur le devant de la scène au niveau de la France et au niveau notamment des débats politiques. Alors que l'on puisse traiter d'un point de vue politique de l'aspect énergétique de la France, et notamment de la politique énergétique de la France, c'est très très bien. Et c'est revenu sur le devant de la scène politique suite aux déclarations du président Emmanuel Macron. Parce qu'on a un peu l'impression que la course au gigantisme, elle semble, cette course terminée dans l'industrie nucléaire, parce que la tendance aujourd'hui, et on en parle de plus en plus, on en avait parlé dans cette émission il y a peut-être déjà 2 ou 3 ans, ça passe tellement vite, on avait parlé des SMR, les Small Modular Reactor, small, petit, modular reactor, réacteur modulaire, ce sont donc des petits réacteurs modulaires, ce sont des, ils sont moins puissants que les centrales nucléaires classiques. Et il y a une puissance de 50 à 250 mégawatts, ce qui est à peu près 10 fois moins puissant qu'une centrale classique. Il y a de nombreux projets qui sont en cours de développement dans le monde. Il y a notamment au niveau des États-Unis une entreprise qui est soutenue par des investisseurs privés et par le département de l'énergie américain. La Russie, qui vient de mettre à flot sa première centrale flottante avec 2 réacteurs de 35 mégawatts, et bien travaille également un concept à terre de ces fameux Small Reducteur Reactor, SMR. Et puis il y a la Corée du Sud, il y a la Chine, il y a même Rolls-Royce qui planche actuellement sur ces petits réacteurs modulaires. La France est également concernée parce que le mini-réacteur nucléaire bénéficie donc du soutien, comme je vous l'ai dit, du président Macron qui a annoncé un investissement d'1 milliard d'euros dans le nucléaire, dans le plan France 2030 qu'il a annoncé il y a une quinzaine de jours à peu près. La France dispose de son propre projet qui s'appelle Nuward. C'est un petit réacteur qui est le fruit d'une collaboration entre le CEA, qui est le Commissariat à l'énergie atomique, il y a EDF, il y a Naval Group et il y a également Technic Atom. Alors il y a de nombreux projets qui sont actuellement à l'étude pour le nucléaire du futur. On avait parlé dans cette émission, je crois qu'il y a un mois, c'était courant septembre, du réacteur à fusion. Il y a également le réacteur au thorium. Mais bref, les SMR, ils ont quand même l'avantage de fonctionner sur un concept qui est connu et éprouvé, qui est l'eau pressurisée. Et donc, globalement, un SMR, c'est une centrale nucléaire classique miniature. C'est ce qu'explique Jean-Michel Ruggieri, qui est le responsable du programme SMR au CEA. Ces mini-réacteurs présentent de nombreux avantages. Ils peuvent être assemblés en usine, ce qui diminue un petit peu le coût et la durée de fabrication. Ils s'intègrent facilement au réseau, ils produisent une énergie décarbonée et facilement pilotable également. Alors selon donc cet expert, ces petits réacteurs modulaires seraient parfaitement adaptés pour le remplacement des centrales à charbon et à gaz, parce qu'ils ont à peu près une puissance similaire en termes de production électrique. De plus, comme la puissance est plus faible par rapport à ce qui se passe dans une centrale nucléaire, il y a moins de chaleur à évacuer en cas d'accident, ce qui fait que l'on peut utiliser des systèmes de sécurité qui vont reposer sur un système de convection naturelle passive. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas besoin de pompes qui vont fonctionner à l'électricité pour pouvoir refroidir la centrale. Ça a été l'une des problématiques, notamment de Fukushima. Et parce que la panne du système de refroidissement, c'est ce qui s'est passé à Fukushima, ça a été noyé, si bien que le système de refroidissement n'a pas pu être mis en place. Et donc, du coup, il y a eu un emballement qui fait qu'il y a eu cette explosion et cet accident très grave à Fukushima. C'est pour ça que depuis, on a décidé de pouvoir surélever un petit peu tous ces systèmes de refroidissement, notamment avec les moteurs diesel qu'on ne va pas mettre au niveau du sol, mais qu'on va surélever. Comme ça, en cas d'inondation quelconque, quelle que soit l'origine de cette inondation, et bien du coup, ces systèmes de refroidissement peuvent continuer à fonctionner. C'est comme ça qu'on développe un petit peu des systèmes qui vont pouvoir sécuriser le dispositif. C'est en comprenant ce qui s'est passé quand il y a eu une catastrophe. Bref, ça, je vous parle des centrales nucléaires actuelles, notamment celles qui sont en France. Là, on parle de ces mini-réacteurs qui répondent à une vraie demande, parce qu'au fur et à mesure que les pays vont fermer leurs centrales à charbon, ils vont devoir les remplacer par une énergie propre et une énergie fiable. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui va être éolienne, tout ce qui va être panneau solaire, eh bien, ce sont des énergies intermittente, c'est-à-dire qu'on produit de l'électricité quand il fait soleil ou quand il y a une vitesse de vent acceptable. Et tout ça doit être impérativement complété par des centrales qui vont être facilement pilotables, que l'on peut mettre en route rapidement parce qu'on a besoin d'électricité là tout de suite. Et du coup, ces fameux SMR peuvent répondre à cette problématique. Elles peuvent également apporter de l'électricité dans des régions isolées ou peu connectées au réseau. Par exemple, le Canada, qui dispose d'un véritable plan de déploiement de SMR parce qu'il n'y a pas de réseau interconnecté comme il existe en France. Et puis, au-delà de l'électricité, les SMR peuvent également répondre à des besoins spécifiques pour l'industrie, la production de chaleur, le dessalement de l'eau de mer ou encore la fabrication d'hydrogène. On sait aussi que l'hydrogène va être une énergie du futur. Bref, ça permet justement les SMR de pouvoir développer pas mal de pistes. Alors, il s'agit d'une technologie, comme je vous l'ai dit, un peu éprouvée parce qu'on connaît ce qui se passe, mais les SMR doivent passer par toute une phase de certification pour pouvoir valider leur conception et leur système de sécurité, ce qui va prendre à peu près une dizaine d'années. Donc il y a certains projets qui semblent aujourd'hui plus avancés que les autres. Et en juin, il y a quelques mois, la Commission nationale de développement et de réforme, connaissait pas du tout cette commission, eh bien on la découvre, elle a officiellement approuvé la construction d'un petit réacteur modulaire en Chine. Et donc, du coup, ça se passe en Chine, hein, ce commissariat national du développement et de la réforme. Pour ça, je me disais, en France, ça ne nous dit rien, c'est en Chine. Et du coup, ça a été approuvé et ça a permis le développement, justement, de ces fameux SMR. Alors, le projet en France, qui s'appelle donc New Art, comme je vous le disais, ne sera pas disponible avant 2030, voire 2035. Donc, on est quand même sur une échéance d'un peu plus de 10 ans. Mais le timing est parfait, nous dit Jean-Michel Ruggieri. OK, car on arrivera juste au moment où les centrales au charbon arrivent en fin de vie. Alors, la France ne devrait pas être la première concernée parce qu'elle a déjà une filière nucléaire qui est déjà bien développée. Mais ce projet français New Art vise plusieurs pays en Europe, l'Estonie, la Pologne, la Finlande. Et il y a également des pays du Golfe, comme la Jordanie, qui pourraient également être intéressés. Il reste une question, et c'est très souvent qu'on parle aussi de ça dans cette émission, c'est la question du coût. Parce que la centrale est moins grosse, le design est plutôt simplifié, la construction, elle est quand même beaucoup moins chère qu'une centrale nucléaire classique. Alors, les estimations, elles varient entre... Alors, la fourchette, elle est quand même assez large, hein, parce qu'on est entre 100 millions et 1,5 milliard d'euros. Mais c'est quand même des choses beaucoup plus abordables que des projets, notamment en Angleterre, le projet Incline Point qui atteint plus de 25 milliards d'euros. Donc là, on est quand même sur des notions, des échelles plus abordables. 100 millions à 1,5 milliard d'euros, c'est un petit peu les estimations qui sont annoncées. L'histoire du nucléaire a plutôt été d'augmenter la taille des réacteurs pour réduire le coût de production du kilowattheure. On tente donc de compenser la taille plus petite en cherchant une conception très modulaire et en maximisant la part qui pourrait être faite en usine. C'est ce qu'explique dans les échos Bernard Salat qui dirige le département de R&D d'EDF. L'avenir donc du nucléaire se joue pourtant peut-être sur ces fameux SMR. Malgré les progrès de la fusion sur le réacteur expérimental ITER, comme on l'avait évoqué il y a un mois à peu près dans cette émission, eh bien, rien ne dit que cette technologie va un jour aboutir sur des réacteurs commercialisables. Mais donc, voilà, suite aux annonces du président Emmanuel Macron, eh bien, on se retourne un petit peu plus sur le nucléaire en France et notamment sur ces mini-réacteurs nucléaires. SMR, retenez bien ce nom parce qu'on risque d'en parler dans les prochaines années de plus en plus. Je collectionne des canards vivants, c'est pas moi qui parle, c'est Andreas et Nicolas sur l'antenne de Graphite.
Dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais, dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais. J'y vais. Je collectionne des canards. Oh, oh. Je collectionne des canards par milliers. Je collectionne des canards. Oh, oh. Je collectionne des canards vivants.
Dès que je surfe sur le web et qu'eBay vend un canard, j'achète. J'achète.
Et si quelqu'un surenchérit, tartare, je surenchéris, chérie,
chérie.
Je collectionne des canards. Oh, oh. Je collectionne des canards par milliers. Je collectionne des canards. Oh, oh. Je collectionne des canards
possible, mais c'est comme ça.
Je désire acquérir tous les canards de la
Je collectionne des canards. C'était Andreas et Nicolas sur l'antenne de Graphite. invité. Voilà, c'est sympa, je trouve. Ça change un peu, finalement, là, des fois, des musiques conceptuelles compliquées. Là, c'est sympa et c'est efficace. Et bon appétit si vous êtes à table, vous mangez peut-être un canard laqué, des fois, ça peut être sympa. Allez, on continue à développer l'actualité scientifique dans cette émission sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que vous nous écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent via la bande FM dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. L'analyse en temps réel de certains indicateurs physiologiques, comme par exemple le rythme cardiaque, la vitesse de la respiration, eh bien tout ça pourrait aider à détecter un début de fatigue chez l'automobiliste. C'est pourquoi Ford a décidé d'étudier avec une équipe de scientifiques l'ensemble des réactions au niveau du cerveau afin d'anticiper ces fameux moments de fatigue et d'alerter le conducteur à temps de manière encore plus performante qu'aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des dispositifs qui existent. Le constructeur donc américain mène cette nouvelle étude sur le cerveau en partenariat avec l'hôpital universitaire d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Et du coup, cette étude est destinée à détecter, je vais y arriver, plus facilement les moments où le conducteur commence à s'endormir au volant. Alors, l'idée est bien évidemment de mettre au point de nouveaux systèmes d'alerte encore plus efficaces que ceux qui sont proposés aujourd'hui. Et par conséquent, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir sauver davantage de vies. Bref, les participants effectuent donc une simulation de conduite sur autoroute pendant que leur activité cérébrale est scannée par IRM. Et le but, c'est d'identifier l'ensemble des réponses du cerveau qui révèlent des pertes de concentration, qu'il s'agisse de mouvement particulier au niveau de la tête et des membres, d'un changement de rythme cardiaque ou aussi de la vitesse de respiration. Alors, en recueillant toutes ces données, les médecins allemands et les ingénieurs de chez Ford souhaitent pouvoir être un jour en mesure de générer ce qu'on appelle des empreintes physiologiques uniques pour chaque conducteur, c'est-à-dire que chaque conducteur a sa réaction personnelle et on pourra ainsi l'avertir de manière intelligente dès les premiers signes de fatigue. Alors, c'est un système qu'on connaît déjà, notamment Ford, qui propose depuis une dizaine d'années un système d'alerte sous la forme d'un symbole, qui est en fait le symbole, c'est une tasse à café. J'ai jamais vu dans Ford, mais voilà, ça existe comme ça. C'est affiché au niveau du tableau de bord et ça signale au conducteur qu'il commence à montrer des signes de fatigue et qu'il devrait faire une pause. Et bien du coup, avec ces avancées, et notamment dans le domaine de la neuroscience, eh bien, on va pouvoir peut-être essayer de trouver des méthodes beaucoup plus avancées pour lutter contre la fatigue au volant. Et c'est donc ça ce qui a été annoncé par Ford. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on est toujours dans un domaine aussi intéressant qu'est le domaine du cerveau, qu'on évoque très souvent dans cette émission, parce qu'on voit très bien qu'on a encore énormément de lacunes sur le fonctionnement du cerveau. Et donc là, on est en train d'étudier par un autre biais et pour une autre application, bien sûr. Deux informations assez intéressantes qui concernent les végétaux et la médecine. Alors le premier, c'est, on va parler du basilic et de l'intestin, un peu considéré comme notre deuxième cerveau parce qu'il a l'intestin, 100 millions de neurones qui sont connectés et ces neurones communique avec le cerveau via un système nerveux qui est autonome et qui est aidé aussi par les bactéries qui sont présentes dans l'intestin. Donc tout ça, quand ça se passe bien, réagit de façon harmonieuse et du coup, l'intestin communique avec le cerveau avec un système nerveux autonome. Eh bien, les médecins s'intéressent de plus en plus, au rôle de l'intestin et de son microbiote. Le microbiote, ce sont donc ces bactéries qui sont présentes dans l'intestin. Et ces médecins s'intéressent de plus en plus dans le rôle qu'il y a, notamment dans les maladies qui s'expriment dans le cerveau, notamment les maladies neurodégénératives. On parle d'Alzheimer, mais également les maladies mentales, par exemple la dépression. Et c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est déjà été évoqué plusieurs fois, et notamment dans cette émission, le rôle du microbiote. Donc le microbiote, je rappelle, c'est ce qui se passe, c'est un petit peu toutes ces bactéries qu'il y a dans votre intestin. Eh bien, le rôle du microbiote est particulièrement étudié, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Il y a des chercheurs américains qui ont donc travaillé sur ces éléments. Et ils ont découvert l'effet positif d'une molécule qui est abondante dans le basilic et un effet positif sur les symptômes d'Alzheimer. Tout ça a été recréé en laboratoire avec des modèles d'animaux. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que cette molécule qui s'appelle le fenchol agit sur un récepteur porté par les neurones de l'intestin. Et habituellement, ce récepteur, il est activé par des acides gras spécifiques qui sont produits par les bactéries qui sont présentes dans l'intestin. Or, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, elles peuvent présenter un déficit de ces acides gras. Et donc, pour compenser la perte de l'effet bénéfique de l'activation de ce récepteur, eh bien, les chercheurs américains ont passé au crible une bibliothèque de plus de 100 000 composés naturels pour essayer de voir lequel réagirait le mieux vis-à-vis de ce récepteur. Et on s'est rendu compte que le vainqueur, c'est le fenchol. Le fenchol est présent dans le basilic, aussi dans le raisin, dans la moutarde également. Et on a donc fait des travaux en laboratoire et on s'est rendu compte que le fenchol prévient la neurodégénérescence liée à l'accumulation des protéines amyloïdes dans l'intestin. Et donc, on s'est rendu compte qu'un traitement au fenchol augmente la durée de vie et réduit la prolifération de ces fameuses plaques amyloïdes dans le corps. Et c'est un mécanisme, en fait, qui... On n'a pas très très bien compris comment ça fonctionnait, mais en tout cas, on s'est rendu compte un petit peu que on pouvait interagir avec ce récepteur spécifique qui avait donc un lien directement avec la maladie d'Alzheimer. Bref, on est sur une découverte assez intéressante qu'il va falloir bien évidemment poursuivre pour faire... avoir des études un petit peu plus abouties. Mais c'est une piste assez intéressante qui a donc été évoquée il y a quelques jours, courant octobre, donc dans cet article de Futura Science qui explique très bien que ce fenchol présent dans le basilic pourrait être assez intéressant pour soigner ou apporter une réponse assez efficace contre la maladie d'Alzheimer. Alors attention, on est quand même sur des quantités assez importantes de fenchol, c'est-à-dire que le basilic que l'on consomme habituellement dans notre alimentation classique... Pardon, excusez-moi, voilà. Je ne l'ai pas vu dire celui-là. Pardon. L'article explique très bien qu'il ne faut pas se leurrer. Le basilic que l'on mange dans notre alimentation... Toujours deux fois avec moi. Je vais y arriver, bon sang, cette phrase. Le basilic que l'on consomme dans notre alimentation ne va pas... Enfin, la quantité de basilic ne va pas pouvoir être assez importante pour obtenir ce fameux fenchol. Donc, il ne faut pas se leurrer. Mais on pourrait peut-être trouver des thérapies assez intéressantes. Excusez-moi. C'est incontrôlable. On va pouvoir trouver des thérapies assez intéressantes de composer du basilic. Allez, on va écouter une musique, comme ça, ça va me permettre de me soigner. Et on parlera des épinards, qui, eux également, pourraient avoir un impact assez intéressant, notamment face au cancer. C'est parti.
On a une perturbation qui va arriver. Alors elle le fait dans un champ de pression élevé, ça veut dire qu'elle ne sera pas très active côté précipitation, mais tout de même, elle va passer. Donc on va la retrouver déjà demain matin. Alors essentiellement...
Quand je rentre vers 20h après une dure journée de labeur, j'aimerais bien me caler devant la télé. Et je sais que pour des millions de Français, pour évacuer le stress, est devenu un réflexe. Diffusion quotidienne aux images déroutantes sur lesquelles s'égrène une voix off alarmante, production hollywoodienne d'une info désolante. Le grand messie manipule les esprits et tente d'implanter sa triste vision de la réalité. Information falsifiée, choisie pour faire du profit une demi-heure. Après, c'est terminé. Bonne soirée, bonne soirée. Ils appellent ça le gîte. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Début de migraine, j'ai changé de chaîne. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Début de migraine, j'ai changé.
changer de chaîne.
Un ancien patron des RG laisse entendre qu'il aurait cherché à déstabiliser Lionel Jospin ou Nicolas Sarkozy.
Et je suis tombé sur un parloir télévisuel avec des grands gens qu'on qualifie d'intellectuels. Mais au lieu d'aborder une discussion avec un véritable sujet de fond, on mise encore sur du sensationnel et on se dispute des propos superficiels. Ces marionnettes pleines d'éducation m'ont mis la hâte au courbouillon. Et quand, pour conclure le débat, ils ont fini en pugilat, ça m'a saoulé et j'ai zappé. Putain de migraine, j'ai changé de chaîne. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Putain de migraine, j'ai changé de chaîne. Je me permets de rire, car je pensais pas que le pire restait à venir. Oh, bienvenue sur le plateau des jeux navrants, où des candidats, certainement très intelligents, viennent faire étal de leur culture. Mon Dieu, d'être aussi con, ça doit être dur. Et dans le milieu de la bouffonnerie TV reality immonde qui incarne la bêtise du monde, c'est normal si tu t'es pas reconnu dans ce troupeau d'individus. Dans un monde gouverné par les médias qui se discutent au petit déj entre plantes, c'est pas bien qu'il faut bouger entre les repas. Et... ça m'a saoulé, j'ai mal au crâne. Je prendrai un bouquin.
J'ai zappé, c'était Fab M sur l'antenne de Graphite. Si tu es énervé par la télé, écoute la radio, tu verras, tu te sentiras mieux, notamment Graphite sur graphite.net ou sur 94.9. Tu verras, tout ira mieux. Allez, bon, moi, j'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'à la fin de cette émission. Il reste encore quelques minutes. Je voulais parler de ce deuxième article. Donc le premier, j'espère que vous avez compris, je suis désolé. Hein. Mais alors, quand il y a une... des éternuements qui arrivent comme ça, c'est assez difficile. Donc le premier article, c'était l'idée qu'il y avait un composé du basilic qui pouvait être efficace contre la maladie d'Alzheimer. Alors évidemment, il va falloir continuer les études et faire des études un petit peu poussées, parce que là, on est quand même dans des études qui sont faites en laboratoire sur des modèles assez particuliers. Donc il va falloir essayer d'avancer. Deuxième information, toujours dans cette idée de, des végétaux, de notre alimentation et de la découverte peut-être de certaines thérapies, c'est cette fois le cancer colorectal, le cancer du gros intestin, qui représente la deuxième cause de décès par cancer en France, d'après Santé publique France. Alors, il peut se développer à partir de polypes intestinaux et 5 à 10% de ces polypes se transforment en cancer. Et les pouvoirs publics encouragent à une surveillance accrue en invitant les personnes de plus de 50 ans à un dépistage systématique. Bien sûr, vous connaissez ce... dépistage du cancer colorectal. Alors cette conduite est d'autant plus importante chez les personnes ayant des antécédents familiaux, parce qu'il existe en effet une pathologie héréditaire qui est appelée polypose adénomateuse familiale, qui se traduit par la multiplication de nombreuses excroissances dans le gros intestin qui pourraient donc devenir cancéreuses. Bref, il y a de nombreuses études qui ont mis en évidence qu'une alimentation d'origine végétale riche en fibres peut réduire le risque de développement d'un cancer. Et puis, on se rend compte aussi que les épinards procurent un grand nombre de bienfaits sur l'organisme, parce qu'ils sont riches en une vitamine spécifique, la vitamine K1, qui va pouvoir apporter aussi pas mal de choses et protéger également. Les épinards sont également riches en glutathion, qui va pouvoir agir contre le stress oxydatif des cellules. Il est également riche en folate. Et donc, dans une étude qui avait été menée il y a quelques temps, les chercheurs de l'Université de l'Oregon aux États-Unis avaient déjà démontré l'effet assez intéressant et préventif des épinards sur le développement du cancer du côlon chez des rats. Et on s'est ensuite appuyé sur des technologies un petit peu plus intéressantes et avancées. Et on a donc pu essayer d'avoir des informations de plus grande importance. Et on a analysé un petit peu toutes ces données qu'on a pu avoir. Et des chercheurs du Texas ont mis en évidence par la suite, en prolongeant toutes ces études, ils ont mis en évidence les propriétés anticancéreuses des épinards chez des rats mutants qui portaient les gènes de cette fameuse maladie de la polypose. Et au départ, il s'agissait en fait d'étudier les effets anticancéreux de la chlorophylle, mais grâce à leur nouvelle approche, eh bien, les chercheurs ont découvert un petit peu une refonte de ce fameux microbiote. Hein. On retrouve toujours ce microbiote intestinal. Et là, cette fois, c'était chez des rats qui étaient nourris avec des épinards. Et donc, l'implication de certaines bactéries interviennent dans la survenue de cancer colorectal, eh bien, ces bactéries, on avait un petit peu suggéré qu'elles pouvaient avoir justement être des facteurs de risque de cancer. Et donc, dans cette étude totalement récente, les chercheurs suggèrent un rôle probable des épinards par le changement de la composition de ces fameux micro-organismes et donc de ces bactéries présentes dans le biotope intestinal. Et ça va inverser un petit peu les effets de la prédisposition génétique des rats mutants qu'on a étudiés. Et qu'en plus, on pourrait se dire que ça va apporter des nutriments assez intéressants. Bref, on est sur une étude qui est encore inaboutie, qu'il va falloir poursuivre bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, eh bien, c'est ce qu'on pourrait identifier l'efficacité d'un régime à base d'épinards contre le développement du cancer colorectal. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on est dans une méthodologie un petit peu innovante, si bien que ça apporte un nouveau point de vue dans ce contexte-là. Et c'est ce qui a été donc développé dans cet article de Futura Science que je vous invite à lire pour essayer de comprendre un petit peu plus et d'aller un petit peu plus loin dans les explications, bien sûr, pour comprendre donc ces épinards qui réduiraient le développement des polypes intestinaux et donc le risque de cancer colorectal, et le basilic, donc lui, qui pourrait avoir également une efficacité avérée contre la maladie d'Alzheimer. Voilà, finalement, c'est assez intéressant parce qu'on découvre pas mal de choses. Alors, vous avez bien compris qu'on est quand même sur des stades expérimentaux pas encore aboutis, bien sûr. Il va falloir avancer dans la recherche, mais en tout cas, ça donne des pistes assez intéressantes et assez prometteuses sur des maladies qui sont quand même importantes et qui ont un impact assez essentiel dans nos vies. C'est la fin de cette émission. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de James Bond, mais je vous en parlerai impérativement la semaine prochaine, parce qu'il y a un article qui est très sympa, qui se demande si les poisons que l'on voit dans les films de James Bond, est-ce qu'ils ont un semblant de vérité scientifique ? C'est un article très drôle et très sympa qu'on évoquera la semaine prochaine. Et puis, on reviendra sur cette vaste étude. Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer pendant ce mois d'octobre, mais je voulais revenir à tout prix sur cette vaste étude qui a porté sur 22 millions de personnes. 22 millions de personnes, ce n'est pas rien. Et cette étude démontre l'efficacité des vaccins. Fallait-il encore le démontrer ? Bah, apparemment, oui. Et donc, on évoquera ça dans l'émission Biotine de la semaine prochaine. Fin de cette émission d'aujourd'hui. Désolé de ces petits soucis d'ordre médicaux, j'allais me soigner. J'espère vous retrouver samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent en direct ou en différé sur Internet. Continuez à suivre l'actualité de Graphite sur le site ou alors sur la page Facebook, bien sûr, parce qu'il y a quand même encore pas mal d'actualités à suivre sur ce mois de novembre qui arrive. Je vous souhaite une bonne journée et vous restez fidèles à l'ensemble des émissions. À bientôt, au revoir.